Bonjour frères et sœurs, vous allez bien?
Amen.
Je vais commencer par prier également. Oui Seigneur, je te remercie encore pour ta présence avec nous ce matin et je te demande aussi Seigneur de me remplir de ton esprit Seigneur. Vraiment remplis-moi ton esprit et que ce soit vraiment tes paroles, ta vérité Seigneur qui soient encore partagées ce matin Seigneur. Amen. Alors dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles. Je vais vous inviter aujourd'hui à prendre dans Marc, donc à ouvrir vos Bibles, dans Marc au chapitre 10, versets 17 à 27, et de voir ensemble un peu ce que le Seigneur a bien voulu nous dire avec la parabole du jeune homme riche. Alors, comme Jésus se mettait en chemin, donc versets 17 jusque 27, chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. » Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors le but de ce texte que je vais détailler ensuite est de nous montrer que l'homme s'accroche à des choses qu'il considère importantes, mais qui en réalité ne le sont pas, voire même que celles-ci lui font perdre ce qui est vraiment important, la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous montre, ce texte, la nécessité pour l'homme d'avoir une relation intime avec Jésus pour être sauvé, la nécessité de renoncer au péché, de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Alors ce récit nous parle de la rencontre d'un homme avec Jésus. Et plus précisément, le texte nous dit que ce jeune homme donc avait une belle situation, il avait de grands biens. Le même passage, dans le même récit, dans l'évangile de Matthieu, nous apprend aussi qu'il était jeune. Et si nous imaginons un peu, il devait avoir une vie assez agréable, assez confortable pour cette époque. Et que pouvait-il bien lui manquer? Il avait de l'argent, la jeunesse donc, et une belle vie lui était promise. Et pourtant, nous le voyons venir à Jésus avec une question. Et il n'arrive pas ici d'une manière calme, comme on pourrait le faire si on aperçoit un ami dans la rue et qu'on s'approche de lui calmement avec un sourire aux lèvres parce qu'on est content de le voir. On entame une petite discussion et on retourne ensuite tranquillement jusque chez nous. Non, cet homme a couru. Mais que peut-il bien lui arriver? Cet homme, encore une fois, qui apparaît comme un citoyen modèle, comme une personne même religieuse, on verra ça par la suite, avec des belles qualités morales, comme une personne qui ne semble pas pouvoir avoir de problème dans sa vie, cet homme vient à Jésus comme s'il était au bord du désespoir, se jetant à genoux. Imaginez, un homme à court se jette à vos pieds. En réalité, la conscience de cet homme le travaillait. Elle était en train de lui signifier que les apparences ne pouvaient pas le sauver. Parce qu'en apparence, lui, il avait tout, mais intérieurement, Il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il sentait que tout ce qu'il avait, n'était pas suffisant et ne le comblait pas. Mais que lui manque-t-il alors ? L'essentiel. Et il le sait bien. Il le dit. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Demande-t-il à Jésus. Alors avant de répondre à cette question, Jésus va lui répondre par une autre question. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Par cette question, en fait, Jésus demande à l'homme s'il sait qui il est vraiment. Il avait raison d'appeler Jésus bon, parce que Jésus était bon, il faisait de grands miracles, il faisait beaucoup de choses, il était bon. Mais incontestablement, cet homme ne sait pas ce que cela implique réellement d'appeler Jésus bon. Il n'a pas compris la divinité de Jésus. Il n'en avait pas conscience, il n'en avait pas pris la dimension. Et oui, il n'y a de bon que Dieu seul. Alors devant cette affirmation, vous pourriez peut-être m'objecter qu'il y a aussi du bon dans le cœur de l'homme, non ? Et vous avez raison. La bonté existe dans ce monde. Beaucoup se montrent bons envers leur prochain. On peut avoir un comportement moral, ils peuvent être aimables, respecter les lois. Et tout ça, c'est très bien. Je ne vais pas vous dire d'arrêter demain. Et il existe même beaucoup d'associations, d'entraide dans le monde. Mais alors, question tout de même, cette bonté que l'on trouve dans le cœur de l'homme, n'est-elle pas suffisante pour être appelé bon ? Ne peut-on pas nous aussi être appelés bons ? Est-ce que ça peut faire de nous des hommes bons devant Dieu ? La réalité, c'est que le problème, c'est que nous nous regardons nous-mêmes, ou même les uns les autres, avec un regard humain. Et ce regard n'est pas celui de notre Seigneur. Le Seigneur nous regarde selon ses normes. Il ne regarde pas aux œuvres. Il regarde directement dans notre cœur, dans votre cœur. Les choses peuvent paraître justes ou bonnes aux yeux des hommes, et pour autant, pas forcément aux yeux de l'Éternel. Proverbe 21, verset 2 nous le dit bien. Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. Et que voit-il ? Il voit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 15, verset 19. Alors, avec tout ça, on peut comprendre que comparé aux normes absolues de Dieu, personne, effectivement, ne sera jamais assez bon. Notre bonté ne sera jamais à la hauteur de la sainteté de Dieu. Car cette bonté ne peut se dégager en réalité du côté dur et mauvais du cœur de l'homme. Il y a toujours ce mélange avec la haine et la dureté. Et le cœur ne peut en être libre sans Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus va essayer de montrer aussi à cet homme, justement, du verset 18 au verset 21, en lui disant « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Alors là, dans ce passage, maintenant que Jésus lui a rappelé que seul Dieu est bon, justement, il va mettre à nu le cœur de cet homme. Alors dans quel objectif ? Pas pour le pointer du doigt, mais pour lui permettre de se rendre compte qu'il ne satisfait justement pas aujourd'hui à la perfection de Dieu. Alors pour ce faire, il va utiliser justement la loi de Dieu elle-même, ses commandements. Parce que cet homme lui demande ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et donc il va lui commencer par lui demander de s'auto-évaluer, de s'évaluer par rapport à la loi de Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que s'il dit oui à chaque question, s'il obéit à chaque commandement, s'il prétend vraiment obéir à chaque commandement, il aurait la vie éternelle ? Est-ce qu'il la détiendrait ? Alors techniquement ou théoriquement, on pourrait dire que oui. Nous pourrions être sauvés par la loi parce qu'elle est parfaite. Mais attention, cela sous-entendrait justement qu'elle est parfaite, qu'il nous faudrait y obéir parfaitement nous aussi. et que nous devrions être parfaits dès la naissance et pendant toute notre vie. Et parfaitement parce que Dieu ne peut pas accepter le péché, aucun péché auprès de lui. Et parfaitement également parce que Jacques nous le dit au chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Alors, qui dans cette salle, justement, et moi-même, peut prétendre obéir parfaitement à la loi de Dieu ? Et j'insiste vraiment sur ce mot, hein, parfaitement, et aussi depuis la naissance. Alors, si nous reprenons, justement, si on fait même l'exercice, nous aussi, de reprendre quelques-uns des 10 commandements pour voir. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avez-vous toujours adoré et aimé Dieu de tout votre cœur ? Encore une fois, depuis votre naissance ? Un autre commandement nous dit « Tu ne feras point d'image taillée. » Est-ce qu'on ne s'est jamais agenouillé, incliné, prostré devant une statue, peut-être même ou alors pendant un voyage, en regardant par rapport à la culture aussi de certains peuples ? Un autre commandement nous dit « Honore ton père et ta mère. » Est-ce qu'on l'a toujours fait ? Est-ce qu'on a toujours honoré notre père et notre mère ? Est-ce qu'on leur a toujours obéi ? Est-ce qu'on les a toujours été reconnaissants ? Bon, ma maman a fait un petit signe. Bon, vous avez la réponse pour moi-même. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Qui n'a jamais dit un seul mensonge, même tout petit ? Ou encore, tu ne convoiteras point. Qui n'a jamais eu envie d'avoir peut-être le bien de quelqu'un d'autre, ou trouver la maison de son voisin plus belle que la sienne, sa voiture, son n'importe quoi ? Il en reste encore des commandements, j'en ai cité que 5. Personne ne peut satisfaire parfaitement à tout. Il est impossible pour l'homme de faire continuellement le bien. Et quelle que soit toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas le faire. Et encore une fois, même si vous aviez commis un seul péché au cours de votre vie, ce qui serait quand même exceptionnel, hein, je vous dirais bravo déjà, eh bien, ce péché, aussi petit soit-il, ferait de vous un pécheur. Et la Bible nous dit à ce propos, dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, je pense que vous savez la fin, c'est la mort. Et la loi dans les mains de Dieu, justement, donc, est le miroir, au final, elle n'est pas là pour nous sauver, mais elle est le miroir par lequel il renvoie à l'homme sa propre image. Elle est là pour nous montrer notre état de pécheur, justement, notre besoin d'un sauveur. Et encore une fois, c'est ce que Jésus est en train de montrer à ce jeune homme. Il lui dit notamment « Vends tout ce que tu as ». Parce que ce jeune homme lui dit qu'il obéit justement à pas mal de commandements, et donc le Seigneur lui dit « Vends tout ce que tu as ». Et quand le Seigneur lui demande cela, et même de revenir à lui ensuite, ce jeune homme riche n'est pas capable de le faire. Et Jésus le place face à son péché, il l'oblige à se rendre compte justement de son incapacité à suivre la globalité des commandements et à se rendre compte qu'il est pécheur. Et encore plus précisément, Jésus lui montre qu'aujourd'hui, ce jeune homme riche est guidé par une idole. Que quelque chose dans sa vie est plus importante que Dieu. Il n'est pas prêt à lâcher ce monde, il n'est pas prêt à se débarrasser de ce qu'il sépare de Dieu. Il refuse de suivre Christ pour les richesses qui satisfont sa convoitise. Et même s'il demande à Jésus comment obtenir la vie éternelle, ce qui part quand même d'une bonne intention, son attache profonde reste le monde et non pas le ciel. Sa conduite est quasiment irréprochable encore, mais où sont ses affections ? Il préfère une idole à celui qui est réellement bon. Et arrêtons-nous justement aussi quelques secondes peut-être sur cette question, qu'est-ce qu'une idole ? Parce que quand on parle d'une idole dans notre société, ou même si on regarde un dictionnaire, souvent le mot idole en tout cas est défini simplement par, comme étant en général une statue de pierre, une image représentant une divinité ou comme habitée aussi par celle-ci. Mais si on se contentait justement de l'image de la statue, on oublierait aussi ce qu'on peut appeler les idoles du cœur. Alors dans un livre justement de Timothy Keller qui s'appelle Les idoles du cœur, Il affirme d'ailleurs que le cœur humain est une vraie fabrique d'idoles. Alors pour le citer, tout peut devenir une idole, une alternative au vrai Dieu, une contrefaçon. De bonnes choses, comme une relation amoureuse, des biens matériels ou la famille, peuvent prendre la première place dans nos vies. De même, la bonne réputation, les compétences, les talents, la santé, la beauté, l'intelligence et la moralité sont susceptibles de devenir des biens suprêmes. Ces choses sont des bonnes choses en soi si on les prend unitairement, mais encore une fois, quelle est la place qu'on leur donne ? Il dit également « Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. » Et le danger est bien là, de mettre quelque chose entre le Seigneur et nous, au-dessus du Seigneur. Et combien de fois notre cœur est-il partagé ? Je te montre ce que le Seigneur demande de nous et ce que le monde nous propose. Tout peut devenir un autre Dieu devant le Seigneur. Et donc, c'est-à-dire quelque chose qui exige notre dévouement, notre consécration. Et la Bible nous le dit clairement aussi, dans Matthieu chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et pour le jeune homme, justement, c'est l'argent, les richesses du monde qui l'éloignent de Dieu. Mais pour nous, quel est notre Dieu ? Quel est votre Dieu ? Qu'est-ce qui prend, occupe votre temps, votre vie ? Est-ce l'argent également ? Est-ce l'amour, le succès, la gloire ? Le sport ? Une star, un chanteur, un acteur qu'on peut vénérer aussi ? Je vous laisse la question. Et par la loi, donc, Jésus a prouvé à cet homme qu'il ne peut satisfaire à la perfection de Dieu par ses propres œuvres. Il lui a montré donc que pour obtenir la vie éternelle qu'il demande, il a besoin encore une fois d'un sauveur. Et le but de Dieu en nous donnant la loi, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était de nous montrer notre péché. Et elle est là aussi donc pour nous amener à Christ. Et Galates 3, verset 24 le dit aussi, « Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Et c'est aussi ce que Jésus lui dit avec « Viens et suis-moi », qu'il faut venir à lui. Il est en train aussi de lui expliquer une chose très importante, et une chose qu'il est important aussi, je pense, de rappeler encore ce matin, d'entendre, de comprendre. Le salut ne peut pas s'acheter. Ni par les œuvres, ni par la religiosité, par un comportement moral, par une grande bonté. Et si nous nous contentons de cette vision humaine, comme ce jeune homme riche, l'issue reste la même. La condamnation reste la même, et inéluctablement la mort gagnera et Satan gagnerait. Et quand bien même il aurait obéi à ce que Jésus lui a demandé, encore une fois, quand bien même il aurait vendu tous ses biens, quand bien même il aurait donné aux pauvres, ça n'aurait pas suffi. Il lui faut venir à Christ et le suivre. Alors la bonne nouvelle, parce que on essaye d'être bon et tout ça, alors on peut dire bon, ça fait beaucoup de choses. C'est que Dieu, lui, ne voulait pas, en tout cas, et Dieu ne veut toujours pas, aujourd'hui, nous laisser justement mourir. Et par sa miséricorde infinie, par son amour immense, Dieu ne souhaite qu'une chose, sauver les hommes, sa création. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Alors oui, nous ne sommes pas obligés de rester morts, perdus, de continuer à vivre sous la puissance du péché. Il y a une alternative qui existe. Alors si cette alternative a été rendue possible, c'est bien uniquement car Dieu lui-même l'a voulu. Car lui, le premier, a fait quelque chose pour nous. Et cette chose, si on peut dire, c'est le sacrifice de son propre fils, Jésus. Alors nous pouvons être sauvés, vivre, mais par Jésus uniquement. Et sans ce sacrifice de Jésus, et encore une fois, sans sa résurrection, nous serions toujours perdus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce salut ne vient pas de l'œuvre des hommes, mais de l'œuvre que Dieu a faite. C'est Dieu qui peut sauver par le sang de Jésus et non pas les hommes par eux-mêmes. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que répond Jésus aussi à ses disciples quand il se demande justement, et avec inquiétude, mais si lui ne peut pas être sauvé, ben, qui peut être sauvé ? Dieu nous a rendus vivants avec Christ, Éphésiens 2, verset 5, il nous offre le salut par sa grâce, par sa faveur imméritée. Christ a détruit la puissance du péché par la croix. Il a ainsi supprimé justement la condamnation qui lui était associée. Romains 8, verset 1 nous dit aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ? Plus aucune condamnation ? Mais ce dernier verset met quand même en œuvre aussi, mais met en avant aussi l'autre aspect du salut, que pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, la condamnation demeure. Et c'est que certaines personnes ont parfois du mal à concilier la condamnation de Dieu sur le péché et son amour et sa bonté. Alors à ces personnes, je répondrai avec cet exemple qui est souvent repris. Imaginez un juge qui, lors d'un procès, ferait grâce à un meurtrier sans que rien ne soit payé par personne. Que diriez-vous ? Que c'est normal ? Sûrement pas. On ne verrait pas bon, malgré la clémence peut-être dont il a fait preuve, mais tout simplement parce qu'on ne le trouverait pas juste. Il a fait quelque chose de mal, il doit être jugé pour cette chose. Et Dieu doit juger le péché justement parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il est juste. Et parce qu'il nous aime, il a voulu sauver les hommes de ce jugement en punissant son Fils à notre place. Et la condamnation a été transférée sur lui pour ceux qui croient en cette œuvre. Mais pour ceux qui refusent de croire, le transfert n'a pas eu lieu. La colère de Dieu demeure sur eux. Il n'y aurait pas de grâce s'il n'y avait pas de condamnation. Et Dieu n'offrirait pas la grâce s'il n'y avait pas de jugement à venir. Mais ce cadeau de Dieu est gratuit. Pour autant, l'accepter n'est pas toujours aussi simple. Le verset 22 du passage nous montre encore une fois ce jeune homme qui se retourne tout triste. Il n'a pas su accepter ce cadeau de Dieu. Alors, quelqu'un d'autre a été triste, hein, ça c'est à n'en pas douter, c'est le Seigneur, dont l'amour pour le jeune homme a été justement mentionné aussi au verset 21, hein, Jésus l'aima. Jésus aurait pu faire des concessions pour le retenir. Poser peut-être des conditions moins rigoureuses, non ? C'est quand même pas mal, déjà, tout ce qu'il respectait au niveau des commandements. Mais tout en l'aimant, il laisse pourtant partir ce jeune homme exceptionnel sans salut. Ce qu'il veut en réponse à son propre amour, ce n'est pas ce que l'homme a ou ce qu'il fait de meilleur, mais c'est bien son cœur. Et comme nous l'avons vu aussi, il ne peut pas y avoir de concurrence dans notre cœur. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il nous veut intégralement à lui. Alors oui, le salut est accordé par Dieu pour ceux qui viennent à lui. Nous sommes acquittés par la foi, ce qui est dit aussi dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors la foi est la seule réponse attendue de nous par notre Seigneur pour obtenir la vie. N'est-ce pas formidable ? Pas nos capacités, pas nos actes qui sont attendus pour obtenir le salut proposé par Dieu. Et je vous le dis encore ce matin, la vie éternelle ne peut s'obtenir pas parce que vous avez pu faire de bien dans votre vie. Mais c'est l'œuvre de Dieu et elle s'obtient par la foi. Alors peut-être que pour toi qui te dis peut-être au contraire que ta vie est loin d'être remplie de bonnes œuvres aussi, parce qu'il y en a qui veulent prétendre justement au salut par les bonnes œuvres, mais il y en a d'autres qui au contraire vont se dire que leur vie est loin d'être un exemple. Ben, la bonne nouvelle c'est que quel que soit aussi ce que tu as fait, et ce que tu as pu faire dans ta vie également, tu peux venir à Dieu et recevoir sa grâce également. Il n'y a pas non plus de trop grands péchés que Dieu ne peut effacer. Et Dieu n'attend pas que l'on change nos actes pour nous aimer, il attend que nous reconnaissions que notre cœur est pécheur, que nous l'aimions et que nous le suivions. De nos actes, il s'en chargera avec nous par la suite. Et à toi, dans cette salle aussi, par contre, qui a peut-être déjà décidé de suivre Jésus, de suivre Christ, je t'invite à ne pas oublier que c'est Christ justement qui t'a sauvé, et non pas toi, toi-même. Je pense qu'il faut qu'on se le rappelle sans cesse, pour nous pousser aussi à l'humilité, justement, et à la reconnaissance. Pour que nous ne nous glorifions pas de nos propres œuvres, ce qui était dit aussi dans Éphésiens. Alors, en préparant ce message, j'ai pu aussi lire une phrase dans un commentaire qui disait « S'il est vrai qu'aucune œuvre ne conduit au salut, il est aussi vrai que notre salut devrait engendrer des actes de service. » Et c'est vrai que nous n'avons pas été sauvés, frères et sœurs, pour nous-mêmes. Nous avons été sauvés pour servir Christ. Et à la différence d'avant, par contre, nous ne comptons plus sur nos propres forces, mais nous laissons agir l'Esprit en nous, à travers nous. Nos actes découlent de la foi, et nos œuvres sont celles que Dieu justement a préparées d'avance. Et lui qui agit en nous, et la seule chose dont nous pouvons nous glorifier, dont nous devons nous glorifier, c'est justement que de ce que Dieu agit et fait à travers nous. Alors je vous invite vraiment à le laisser faire dans vos vies. Alors je vais terminer avec un dernier verset, conclure ce message qui se trouve dans les psaumes au chapitre 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que Dieu vous bénisse.